et comment les personnes vont se situer en termes de responsabilité. C'est-à-dire que pour que le consentement, en tout cas, qui soit donné... alors, le consentement, quand je dis le consentement, c'est pas pour dire « oui, tu as le droit » ou « non, tu as pas le droit ». C'est pas pour autoriser ou interdire à l'autre. Okay. En tout cas, moi, dans ma façon de travailler. Pour moi, le consentement, c'est dire à la personne, c'est « si tu vas vivre ça, je me sens comment ? Est-ce que je me sens très bien ? Est-ce que c'est un peu difficile ? Ou est-ce que c'est vraiment, ça serait pour moi insupportable ?» Et pour moi, l'autre en face, ensuite, pourra avoir une sorte de grille de lecture pour se faire son choix à lui ou elle. À lui d'assumer les conséquences qui sont derrière. Parce que la personne, après, va faire son choix. Mais en tout cas, en ayant conscience...
Le consentement, c'est le dialogue.
Ouais.
Et la prise en compte de ce qu'est l'autre et ce qui va...
Après, encore une fois, dans la non-exclusivité, depuis plusieurs années, j'observe qu'il y a une montée, entre guillemets, d'une forme de pensée un peu ce que j'appelle libertarienne, vraiment qui rejoint un peu la philosophie libertarienne, vous voyez, c'est ma maison, je fais ce que je veux, voilà.
Oui, oui.
Et donc, qui peut être poussée à, c'est mon corps, je fais ce que je veux, etc. Et à la fois, c'est une pensée qui est très juste dans cette idée de non-exclusivité, mais qui... En tout cas, moi, je vois beaucoup de patients, patientes, du coup, qui viennent avec ce discours-là et qui vont faire subir d'énormes violences.
Oui. Ah, c'est de l'anarchie.
Je fais ce que je veux. Justement, c'est pas trop de l'anarchie dans le sens où souvent, l'anarchie, ça dépend des courants d'anarchie, mais en tout cas, il y a beaucoup de courants où il y a des pensées de coopération, où du coup, on va travailler avec l'autre pour faire une sorte de maquette qui nous convient à tous et à toutes en fonction de nos besoins. Alors que là, c'est plus... de l'individualisme, ça fait qu'il y a vraiment des conséquences où il y a des personnes qui vont finalement imposer d'une certaine façon des choses sans faire fi de l'autre et ça peut avoir des situations vraiment très violentes. C'est-à-dire que pour moi, la non-exclusivité, c'est plein de compétences qui vont être acquises, de gestion de soi, de gérer l'interdépendance, parce que c'est ça souvent ce qui joue. C'est qu'on sort aussi de la dépendance, entre guillemets, du couple pour entrer dans quelque chose d'interdépendant, où chacun, chacune va prendre soin de soi autrement, se réguler autrement, etc., etc.
Et je reste sur les conditions favorables, justement, l'honnêteté radicale et à la communication. Karine a commencé à parler du moment qui n'est jamais le bon moment. Et là, c'est une notion qui est le kéros versus le chronos.
Comme kéros, le moment opportun, n'existe pas vraiment, appuyons-nous sur le chronos, du coup, appuyons-nous sur le temps réel. Et en fait, ce kéros, cette illusion du moment opportun pour parler des choses, ça vient surtout parler de le dépassement de la peur d'aborder une situation. Et donc si on, justement, se dit que ce moment n'existe plus, ok, comment j'inscris ça dans le fil du temps. Et je pense que ça reste intéressant de se dire que dans les outils qu'on propose et qu'on va aborder maintenant, il y a énormément de choses qui sont cadrées avec le fait de faire des choses qui peuvent paraître contre-intuitives. On a un peu ce sentiment que dans les relations romantiques, tout doit être spontané, tout doit être fluide, etc. Et ça, je pense que c'est aussi une illusion. Parce que ça marche pas, ce côté de la spontanéité. Il y a plein de choses qui peuvent être spontanées et chouettes, mais il y a aussi plein de mécaniques et de rituels, vu qu'on les apprend pas dans l'enfance et qu'on doit se former en tant qu'adulte, s'auto-former à être dans l'interaction vraie avec les autres, et ça doit passer par un apprentissage. Un apprentissage, c'est la répétition d'exercices.
Et donc oui, pour pouvoir mettre en place des bonnes pratiques de communication, il faut déjà en fait... être d'accord sur le fait qu'on est deux personnes, dans le cadre où la discussion se fait à deux, elle peut être à trois ou à quatre, mais qu'on a une volonté sincère d'avancer ensemble, d'être une équipe, de se dire les choses, d'être capable de s'écouter, de s'entendre, et de vouloir grandir et faire grandir la relation ensemble. À ça, en fait, ça c'est un peu notre idéal de communication, mais à ça, en fait, on va se heurter à des freins à cette communication authentique qui vont être nos peurs, qui vont être varié, ça va être la peur de blesser l'autre, la peur de perdre le lien, d'être rejeté, abandonné, d'être moins aimé, de ne plus être admiré, d'être jugé, de subir des représailles, ça peut être la colère de l'autre ou des représailles qui vont être physiques, financières. On peut avoir peur de ne pas être compris. Et donc, pour bien communiquer ensemble, malgré toute cette bonne volonté, on va pouvoir se heurter à des liens dans notre communication qui vont être nos peurs. Et donc parmi ces peurs les plus fréquentes qu'on va rencontrer, ça va être la peur de blesser l'autre, la peur de perdre le lien à l'autre, donc d'être rejeté, abandonné, de ne plus être aimé ou moins aimé, de ne plus être admiré, d'être jugé, de subir des représailles, que ce soit la colère de l'autre, une mise à distance. On peut avoir aussi juste peur de ne pas être compris dans l'expression de nos besoins. Et donc tout ça sont des choses qui s'apprennent, et un bon moyen pour dépasser ces peurs, c'est d'utiliser des moyens de communication qui existent, qui sont éprouvés et dont on va pouvoir parler maintenant.
Et donc en premier, on va partager autour de la communication non violente, sachant qu'on va pas faire un cours de communication non violente maintenant. Bon, déjà, il faut mettre un peu un encadrement, parce que la communication non violente, on en entend parler, mais ça peut être aussi instrumentalisé, c'est toujours pareil. La première chose à savoir avec la communication non violente, c'est que l'intention, c'est de ne pas nuire à l'autre. C'est vraiment revenir à la base, c'est-à-dire on doit avoir une volonté sincère d'avancer ensemble. Donc la CNV, c'est pas du tone policing, c'est pas faire en sorte que rien ne déborde, etc. Et ça doit être pensé, la communication non violente, aussi avec les dynamiques de pouvoir. Parce que quand il y a des dynamiques de pouvoir, des rapports de pouvoir forts, bah, la CNV, ça peut être un outil instrumentalisé. Et on a déjà rencontré ces situations. Ensuite, là, on parle de communication, on est beaucoup autour du verbal. Et en fait, faut se rappeler que tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'expression de soi, notamment les personnes neuroatypiques. Et donc, on peut décider de est-ce qu'on va utiliser des gestes non-verbaux ou des outils de transition pour pouvoir aborder certains sujets. Ça peut être, voilà, j'allume une bougie et puis en fait, ça veut dire que ce soir, je peux pas parler. Voilà, pour donner juste un exemple. Ensuite, dans d'autres moyens de communication, on va pouvoir utiliser un safe word.
Le safe word, c'est un outil qui est hérité du BDSM, mais qu'on peut en fait reprendre pour toutes nos interactions et qui va permettre de dire à l'autre, écoute, là j'ai besoin d'une pause par exemple. Alors ça peut être un safe word ou ça peut être un geste qui va exprimer la même chose, le besoin d'une pause, le besoin de redescendre dans la conversation, une façon de dire sans mots ou sans grandes phrases que là, en fait, on est dans un inconfort trop important pour continuer. Tout ça, en fait, ça va être des outils, que ce soit donc, les safe words, les gestes prédéfinis, le fait d'allumer une petite bougie, des petits codes qu'on va se mettre entre nous en amont de la communication pour rajouter en fait, des informations sur notre état d'esprit, notre capacité à communiquer.
Pour certaines personnes aussi, ça peut être très intéressant de passer par l'écriture. Moi, c'est quelque chose que j'utilise, c'est-à-dire que pour pas réagir sur un coup d'émotion trop intense, ça va être d'écrire d'abord, exactement, selon un mécanisme voilà, où je note mes émotions d'abord, donc ce qui est là, qui est fort. Ensuite, je note mes pensées automatiques. Ensuite, je note les pensées rationnelles que j'arrive à mettre en place. Et puis après, je réfléchis à, OK, dans cette situation, comment je veux me comporter avec l'autre. Et ça, on va pouvoir l'écrire. Puis ça va pouvoir servir de support d'échange une fois que l'émotion est redescendue. On peut voir comme un thermomètre de notre état émotionnel. Parce qu'il y a certaines personnes, notamment pour les personnes neurodivergentes, qui n'ont pas très facilement accès aux émotions, à savoir exactement nommer l'émotion. Par contre, elles vont sortir. Est-ce que c'est trop plein ou pas ? Et donc, imaginez un petit thermomètre, à 0 on est au calme plat, tout va bien, apaisement total, et à 10 on est dans la tempête émotionnelle. Pour être dans la rencontre de l'autre, il faut qu'on soit à un niveau en dessous de 5. Quoi. Être dans l'échange quand on est débordé émotionnellement, ça va rarement amener à vraiment prendre en compte la situation de l'autre.
On va du coup aussi pouvoir déterminer en amont de si on traverse une crise ou qu'une insécurité est touchée, est-ce qu'on va en parler maintenant ou est-ce qu'on se prévoit un moment un peu plus tard où justement on ne sera plus dans la tempête et on se définit un petit rendez-vous pour aborder et comment on va l'aborder. Donc ça peut être par un échange de messages plus tard dans la journée ou dans la semaine, ou ça peut être autour d'un café. Ce sont des outils en fait qu'on peut se saisir de tout ce qui nous semble juste et confortable en fait.
Et en plus, tous ces outils sont intéressants à prévoir en amont et à pas être définis dans la tempête. C'est pas dans la tempête émotionnelle qu'on est capable de mettre tout ça en place. Donc, dans cette idée d'avoir un rendez-vous pour parler d'une situation qui est délicate, ce qui est conseillé comme outil, nous qu'on conseille dans les cafés polis, c'est de mettre en place des rituels de moments de discussion sur la relation. De le formaliser, voilà, tous les 15 jours, une fois par mois, etc. Donc on appelle ça des checkings réguliers ou le radar. Et ça va être vraiment un moment dédié à qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, où est-ce que ça a été confortable pour moi, est-ce que ça a été inconfortable, est-ce qu'on a eu des tensions, et donc on peut mettre tout ce qu'on veut dans ces moments-là. Ce qui va être intéressant, ça va être... On sait qu'il y en a toujours, donc il y a de la prévisibilité. Et ça, c'est hyper important, la prévisibilité, ça rassure.
Oui.
Et donc, ça donne plus l'illusion de « ça va être le bon moment ». Ça va être le bon moment quand ça va être notre rendez-vous mensuel ou je ne sais pas.
Et ça, en fait, c'est très rassurant. Et ça permet aussi de gérer sa propre tempête émotionnelle, disant « ok, je vis ma tempête émotionnelle, mais en fait, ce ne sera pas mis sous le tapis ». Je sais qu'il y a un moment, en fait, j'ai le temps de digérer ma tempête émotionnelle, de redescendre, d'écrire si je le souhaite. Et on a ce rendez-vous qui n'est pas très lointain, plus ou moins selon ce qu'on a défini, mais pas trop lointain, et dans lequel, en fait, on va pouvoir se dire les choses de façon déchargée de la réaction émotive du moment. Et donc, on va pouvoir parler un peu plus à froid et être plus facilement dans l'accueil de ce que va nous dire l'autre. Et donc, ça nous permet d'être plus constructif, d'avoir une meilleure formulation, parce qu'on aura aussi eu le temps d'anticiper ce qu'on va dire. On va pouvoir préparer ce qu'on va dire, on va pouvoir le digérer aussi un petit peu en amont. Et en fait, ça va permettre aussi de limiter nos propres ruminations.
Un autre outil qui peut être utile dans le moment de tempête, mais qui doit être du coup prévu à l'avance, on appelle ça le mode d'emploi, c'est quand je déborde, quand mon émotion est trop forte, comment est-ce que c'est plus facile pour moi, plus confortable, que l'autre réagisse. Et donc, ça va être dire, moi, en fait, quand ça pète, j'ai besoin plutôt que tu me donnes de l'eau, que tu me mettes sous un plaid, qu'il n'y ait plus de bruit du tout et plus de lumière, bref.
Ou que tu me laisses tout seul ou tout seul.
Ou alors, au contraire, que tu sois juste là, en présence. Bref, en fait, c'est essayer de savoir ce qui nous fait du bien quand on traverse quelque chose et qu'on peut donner à l'autre. L'autre n'est pas obligé de s'en saisir, mais en tout cas, qu'on peut dire, voilà. Parce que si, par exemple, en cas de débordement, j'ai besoin de solitude, mais que l'autre est là en mode « Ah mais attends, je vais prendre soin de toi », alors que c'est ce qui nous hérisse le poil, l'autre va avoir l'impression de bien faire, on va pas reconnaître son effort, et on donne souvent à l'autre ce qu'on a besoin de recevoir soi-même d'ailleurs. Si vous savez pas ce que vous avez besoin, regardez ce que vous donnez aux autres. Et c'est connaître son propre mode d'emploi pour pouvoir faciliter les échanges, notamment dans les situations de débordement émotionnel. De faire bien attention à qui est à l'aise avec quels moyens. Parce qu'en fait, quand on impose des moyens, y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres. Encore une fois, prendre en compte les neurodiversités. Et qui s'adapte à qui. Si c'est toujours la même personne qui doit s'adapter au fonctionnement de l'autre, c'est qu'on est dans une dynamique de pouvoir et pas dans une vraie prise en compte de chacun chacune.
Mais il y a quelque chose dont on parlait tout à l'heure, c'est avec l'honnêteté radicale et l'implicite, c'est qu'on a l'impression d'avoir été très clair et que dans certaines situations, on dit « mais c'est évident que dans cette situation, en fait, je ressens ça et donc tu devrais agir comme ça ». Pas du tout. En fait, on ne lit pas dans les pensées des autres et on a chacun nos propres mécanismes et nos propres réflexes. Et si à aucun moment on se dit « voilà, en fait, moi quand je vis ça, il se passe ça en moi, j'arrive pas à en sortir ou bien pour que j'arrive à en sortir, j'ai besoin de ça », l'autre ne peut pas le deviner.
Un autre outil qu'on diffuse dans les cafés polis, c'est quel est l'objectif de la discussion. Et des fois, on n'a pas exactement le même objectif dans la discussion. Et savoir le définir avant, okay, est-ce que j'ai besoin d'écoute? Est-ce que j'ai besoin de soutien? Est-ce que j'ai besoin d'une solution? J'ai besoin qu'on trouve une solution commune. Bref, juste cadrer à l'avance, quel est mon besoin en fait dans cette situation? Et ça peut permettre à l'autre de s'adapter. Parce que il n'y a rien de pire que commencer à vouloir vider son sac et avoir quelqu'un qui trouve des solutions alors que c'est pas du tout le besoin. Mais si on l'a pas verbalisé, encore une fois, personne ne peut le savoir.
Nous, dans les outils qu'on propose régulièrement, en fait, donc c'était de se proposer des petits rendez-vous réguliers de check avec des techniques, des outils qui existent, qui sont documentés, qu'on peut retrouver, qu'on mettra dans les ressources. Donc on a le radar dont tu as parlé tout à l'heure, qui est une façon de gérer ces petites réunions de relations. On va avoir aussi des règles, une règle qui s'appelle HALT, qui nous permet en fait de, si on sent que l'émotion prend le dessus, comment on fait redescendre l'émotion, comment on peut faire une pause, comment on se régule pendant la réunion, pour pouvoir en fait maintenir cette réunion et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, ou juste en fait d'être entendu par l'autre. Et là après en fait c'est à chacun chacune de composer en fait son petit cadre de points d'étape régulier sa relation. Donc, ça peut être une fois toutes les deux semaines, ça peut être dans un café, ça peut être chez l'un, chez l'autre. Tout est possible mais il faut juste en fait le verbaliser et se l'organiser. Et c'est comme ça qu'on peut se créer ces moments opportuns qui n'arriveront pas magiquement mais qu'on va créer, qu'on va favoriser et qui permettent ce cadre rassurant pour se parler.
Et maintenant qu'on a passé en revue ces outils, il faut savoir que tout ça, c'est disponible sur notre Discord Polia et Relations Plurielles Toulouse.
Un mot de conclusion, avant peut-être de parler du programme du second épisode.
Moi, je trouve que ça serait intéressant de conclure sur le fait que tout ce dont on a parlé dans cette émission, ça ne concerne pas que les relations plurielles, c'est de l'éducation à la vie affective et relationnelle, programme qui est censé voir le jour au niveau des écoles. Et donc, j'ai quand même un peu d'espoir que ce genre d'outils soient partagés un jour pour les plus jeunes et que justement on puisse changer nos rapports interpersonnels vers un idéal plus doux pour tout le monde. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire au sein de l'asso. Et on prend la voie des relations plurielles, mais pour finalement essayer d'apporter un maximum d'informations et de questionnements au plus grand nombre. Et c'est chouette de pouvoir passer à la radio pour parler de ça.
Jules, Karine, merci.
Merci à toi de nous avoir proposé de revenir.
Et les prochaines émissions.
Exactement, on se retrouve bientôt pour notre deuxième émission qui parlera de l'expression des besoins, des biais et des dynamiques de pouvoir entre les partenaires.
Et au niveau systémique aussi.
Et au niveau systémique, oui, ça va être un gros sujet.
Bon, mais merci, à très bientôt.
Merci de ton invitation.
Merci.
Avec plaisir,
à toi, ouais. À bientôt.
Salut, ciao, bye bye.
Auto-rêveur, ce soir j'ai vent. Que ta comète, elle s'éclipsait. Le corps luisant, l'âme d'un enfant. La pluie d'étoiles s'est effacée. Le cœur dansant bien haut perché, espère pourtant te retrouver. Et toi comète, si tu entends, danse avec nous, reviens briller. Auto-rêveur, ce soir j'ai vent. Que ta comète, elle s'éclipsait. Le corps luisant, l'âme d'un enfant. La pluie d'étoiles s'est effacée.